Il est exactement 19h à Kisangani dans la province de la Tshopo et 18h à Kingasani ici à Kinshasa. C'est l'heure de nous informer.
Radio Kapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais d'abord, les titres de ce journal d'avant Noël. Le gouvernement, à travers le ministère de la Communication et Médias, condamne fermement les marches forcées imposées aux populations civiles dans certaines zones de Deux Kivu, sous occupation de l'FCM-23 soutenu par l'armée rwandaise. Pour lui, il s'agit d'une atteinte à la souveraineté nationale et un crime contre la dignité humaine. Et en cette période des fêtes, le gouvernement renforce l'opération Ndobo à Kinshasa. Objectif, lutter contre la criminalité urbaine, les phénomènes Mobondo et les embouteillages dans la capitale. Avec notre invité Justin Goudza, chef du secteur des Djati en Ituri, nous parlerons de cette accalmie relative qui s'est installée depuis quelques semaines dans les territoires des Djougou, zone pourtant réputée comme épicentre des violences armées. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir. Dans le territoire de Djougou en Ituri, des violents affrontements opposent depuis mercredi matin des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, aux combattants de la rébellion CRP, la Convention pour la Révolution Populaire, dirigée par Thomas Lubanga. Ces affrontements ont lieu précisément à Boulé, une localité située à plusieurs kilomètres de la ville de Bounia, aggravant davantage la situation humanitaire déjà fragile dans la région. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
D'après des sources concordantes, des civils ont été victimes de balles perdues. Plusieurs personnes auraient perdu la vie, d'autres seraient grièvement blessées. La peur s'est rapidement emparée de la population. Certains habitants et même des déplacés internes ont fui leur village et les sites d'hébergement pour trouver refuge aux abords de la base militaire des soldats ougandais jugés relativement plus sûrs. Sur le terrain, marché, commerce, transport en commun et activités religieuses sont à l'arrêt. À ce stade, il demeure difficile d'établir un bilan précis de pertes humaines et matérielles. L'accès à certaines zones reste fortement limité, indique Désiré Malodra, acteur de la société civile. Contacté, le porte-parole des FADC en Ituri confirme la reprise du combat et annonce qu'une communication officielle sera faite dans les prochaines heures. Ces nouveaux affrontements surviennent à la veille des festivités de Noël, plongeant une fois de plus les populations civiles dans l'angoisse et réduisant à néant tout espoir de célébration dans cette partie de l'Ituri, une province déjà lourdement éprouvée par des années d'insécurité armée. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Encore une fois, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à ce journal vespéral sur la radio de la paix. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réagit fermement aux marches forcées imposées aux populations civiles dans certaines zones de l'est du pays sous occupation de la rébellion FCM-23 soutenue par l'armée rwandaise. Dans un communiqué publié ce mardi à Kinshasa, le ministère de la Communication et des Médias dénonce ces pratiques qualifiées de manipulation politique et de prise d'otages collective des civils. Le point avec Grace Amzati Masanzi.
Le communiqué précise que des marches ont notamment été signalées à Uvira le 16 décembre, à Kamanyola le 19, à Goma le 22, ainsi qu'à Bukavu et Sake le 23 décembre. Le gouvernement dénonce des pratiques inacceptables consistant à contraindre des civils, y compris des femmes et des jeunes, à participer à des manifestations présentées comme un soutien à une présence militaire étrangère jugée illégitime. Ces actes sont assimilés à une manipulation politique et psychologique des communautés locales, comparable à une véritable prise d'otage collective, ajoute-t-il. L'exécutif rappelle que l'utilisation des populations civiles comme bouclier humain ou instrument de propagande constitue une grave atteinte à la souveraineté nationale et un crime contre la dignité humaine. Il prévient que ces violations répétées des droits fondamentaux ne resteront pas impunies et feront l'objet de sanctions sévères. Face à cette situation, le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les populations civiles, à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et à traduire en justice les auteurs et les commanditaires de ces actes. Enfin, le gouvernement réaffirme son engagement dans les processus de paix en cours en vue d'un retour durable de la paix, de la stabilité et du développement dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs.
Pendant ce temps, la ville de Bukavu a retrouvé son calme ce mercredi, contrastant avec le climat de vives tensions qui a régné la veille. Les activités paralysées toute la journée de mardi ont repris normalement ce mercredi matin. Magasins et boutiques ont rouvert, le transport en commun fonctionne à nouveau et la quiétude est revenue dans les quartiers périphériques touchés hier par des explosions qui ont causé des dégâts humains et matériels, notamment dans la commune populaire de Kadutu. Guy Matechongo nous en dit plus.
La tension de mardi est née des deux positions opposées à Paris après l'annonce d'une journée ville morte décrétée par les composantes de la société civile du Sud Kivu. Cette décision faisait suite à un appel de la FCM23 invitant la population de Bukavu à organiser une marche de soutien au mouvement rebelle. En réaction, les Wazalendo se sont regroupés autour de la ville pour dissuader les habitants de répondre à cet appel. Cet imbroglio a plongé Bukavu dans une léthargie totale, empêchant transporteurs et commerçants d'évacuer à leurs activités. La population est restée chez elle dans l'attente de l'évolution de la situation. Vers 9h, des tirs d'armes automatiques provenant des périphéries de la ville ont commencé à se faire entendre, touchant particulièrement la commune de Kadutu. Parmi les victimes, un pasteur d'une église locale a succombé à une balle perdue à Bolo Premier dans le quartier Mossala, alors qu'il se trouvait dans l'enceinte même de son église. Dans un autre quartier, à Panzi, un engin explosif a endommagé la toiture et une partie du mur d'une maison résidentielle.
Les autorités congolaises annoncent le renforcement de l'opération Ndobo, qui signifie hameçon, à Kinshasa en cette période de festivités de fin d'année. L'objectif est de lutter contre la criminalité urbaine, les phénomènes Mobondo ainsi que les embouteillages dans la capitale. Cette décision fait suite à une réunion présidée ce mardi par les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur et de la sécurité en présence des responsables de la ville. À ce sujet, on écoute le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, dans des propos recueillis par Grace Amzati Masanzi.
En réunion spéciale de sécurité autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières pour présenter la situation sécuritaire, mais également encadrer dans cette période festive la sécurité des Kinois et Kinois. Alors les mesures ont été prises justement pour accompagner cette période festive. Nous savons que nous sommes préoccupés par la situation des embouteillages, où il y aura encore plus d'effectifs pour accompagner la fluidité, mais également la situation de la criminalité, où les éléments de la police comme de l'armée de la 14e région vont se déployer dans de patrouilles mixtes, diurnes comme nocturnes, afin d'assurer au plus possible la sécurité des Kinois.
À la veille de Noël à Goma, comment les enfants appréhendent-ils la fête? Si les plus jeunes pensent d'abord aux nouveaux habits et aux repas de fête, les plus âgés poussent leurs réflexions bien plus loin. Ils espèrent que la nativité du Christ apportera la joie aux enfants du Nord Kivu et la paix dans toutes les familles. Rosalie Zawadi a recueilli leur témoignage.
Avec sa nouvelle robe, la petite Juliane Matundu est déjà très motivée pour aller au culte jeudi matin célébrer la naissance de Jésus.
Ce que je veux pour comment Noël doit se dérouler, on doit tous aller à l'église, puis après on doit rentrer à la maison. Et puis, je veux beaucoup, beaucoup de nourriture. Mm-hmm. Les frites, les spaghettis et la viande.
De son côté, Jasmine Malaika souhaite voir tous les enfants du Nord Kivu fêter en paix, entourés de leurs parents.
Pour Noël, en tant qu'enfant de Goma, je voudrais qu'il puisse y avoir la paix, que tous les enfants du Nord Kivu puissent fêter avec leurs parents la fête de Noël, que la guerre puisse arrêter, que les morts aussi.
Un peu plus âgé, Djemima Muzuri voit à Noël une occasion de faire renaître la joie au sein des foyers malgré un contexte difficile.
Par rapport aux enfants du Kivu, c'est parce que j'en ai pas la possibilité, mais j'aimerais partager la joie dans le monde. Que Noël, ça ne soit pas juste genre un cliché, mais que ça soit plus spécial au vu de ce qui s'est passé cette année, qui est de la joie dans le cœur des enfants.
C'est Noël 2025, rêver un caractère particulier pour les enfants de Goma. À l'image des adultes, ils font preuve d'une résilience admirable et se préparent à célébrer Noël avec l'espérance des jours meilleurs. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et puis, à quelques jours des fêtes de fin d'année, les parcs de jeux de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, se préparent à accueillir les enfants et leurs familles. L'ambiance festive commence à se faire sentir, tandis que les équipes d'entretien et de maintenance s'activent pour rendre ces espaces attractifs et sécurisés. Objectif, offrir aux visiteurs des moments de joie et de détente pendant la période de Noël. Jean-Claude Lokidile a visité ces espaces. Voici son reportage.
Dans plusieurs quartiers de la ville, de Délé à Bigot, en passant par la police des frontières, jardiniers, plombiers, menuisiers, peintres et femmes de ménage, tous mettent la main à la pâte. Au parc de Jeux Grand Lac, nous rencontrons Baraka Mavou, gérant. Il supervise les travaux effectués par des ouvriers.
Il est en train de faire la retouche.
Et il y aura
la crème pour les enfants. Il y a des nouveaux vélos.
L'eau ici est en train de couler déjà?
Oui, on met déjà de l'eau dans toutes les piscines.
Par contre, au parc de Jeux Mitterrand-Champagne, un agent procède à la décoration de l'espace. Dans quelques instants, il s'apprête à installer de nouveaux équipements récemment acquis.
Il y a des tables ping-pong, des kick-cars. On a amené aussi d'autres jets qui vont mettre les enfants à l'aise.
Les enfants invités à découvrir le parc en avant-première partagent leur enthousiasme.
Tu fais content, je vois. Tu fais comment?
Isaac.
Tu serais ici le 25 aussi pour venir jouer?
Oui.
Tu aimes l'endroit ici?
Oui.
C'est très bien?
Oui.
Tu t'appelles comment?
Bien fait.
Qu'est-ce que tu trouves de bon ici?
Par exemple, les voitures, le vélo et autre chose aussi.
À la veille de la Noël, ces parcs apparaissent comme de véritables lieux de cohésion sociale où toutes les communautés se retrouvent dans un contexte marqué parfois par des tensions à caractère identitaire en Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, Télé, Radio Capi.
Les marchés de Kindu dans la province du Maniema connaissent une forte affluence à la veille de Noël. La plupart des vendeurs des vivres affirment avoir enregistré un engouement notable et souhaitent que ce rythme se maintienne jusqu'au 31 décembre. Florence Kizalunga, qui a visité le marché central et celui des Lila, nous décrit l'ambiance qui y règne ainsi que les aliments les plus prisés par la population en cette période des fêtes.
À Kindu, les habitudes alimentaires des familles se distinguent particulièrement pendant les fêtes. De nombreux ménages consomment du poulet, du thomson, de haricots accompagnés de riz. Les familles disposant de moyens plus importants optent quant à elles pour la viande boucanée, des chèvres ou de bœufs avec divers accompagnements supplémentaires. Une vendeuse des haricots confirme d'ailleurs la hausse des ventes.
Les haricots, on achète beaucoup aujourd'hui. Vraiment, nous sommes contents.
Un mouvement similaire est observé à la chambre froide de la Grasse. Madame Zaina Albert Boulangui en témoigne.
Vraiment aujourd'hui, les gens achètent beaucoup les poulets et les thomsons, les cuisses, les gésiers. En tout cas, je remercie Dieu parce qu'il y a vente en tout cas.
Les vendeurs d'épices enregistrent et aussi un fort engouement. Omar Ousseni en parle.
Contrairement aux autres jours, aujourd'hui il y a engouement. Les gens viennent très nombreux pour acheter leurs biens. Moi je vends les épices et ils sont nombreux en train d'acheter les épices.
Compte tenu de la conjoncture actuelle du pays, certains parents que nous avons rencontrés affirment être contre de satisfaire leurs enfants malgré la cherté de la vie. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Comment les personnes du troisième âge de la ville de Kananga comptent-elles célébrer les fêtes de fin d'année? Cette question nous a conduit à l'hospice Kapingawa Badibanga à Kamwandu. Les pensionnaires de cet établissement disposent de moyens très limités pour célébrer cette période festive, faute de ressources. Ils lancent un appel à l'aide aux personnes de bonne volonté afin de traverser ces fêtes dans de meilleures conditions. André Katendengalamulume s'y est rendu, suivez son reportage.
Une soixantaine de personnes, hommes, femmes et enfants, vivent à l'hospice Kapingawa Badibanga de Kamwandu, installé dans une grande maison inachevée. Ces pensionnaires sont livrés à eux-mêmes et font face à une précarité extrême. Absence d'eau potable, manque de nourriture, insuffisance des soins de santé et absence d'électricité. En cette période de fête, les personnes du troisième âge hébergées dans cet hospice ne disposent d'aucun moyen pour subvenir à leurs besoins. Elles comptent entièrement sur la générosité des bienfaiteurs. Ngalamulu Mobakambia, 65 ans, témoigne.
En cette période de fête, nous ne savons pas nous prendre en charge vu que nous n'avons pas des moyens. Seules des personnes de bonne volonté peuvent venir nous aider. Nous sommes des personnes abandonnées. Parmi les structures qui apportent un soutien, les confessions religieuses figurent en première ligne. Leur aide, essentiellement composée de denrées alimentaires, reste toutefois insuffisante pour répondre aux besoins de ces personnes vulnérables. Elles appellent les gouvernements à leur venir en aide. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, une bonne nouvelle pour les habitants de la commune de la Mouya en Mbujimayi. L'avenue Kalamba Nzevu est en cours d'asphaltage depuis ce mardi sur les tronçons compris entre l'avenue Kasengulu et les croisements avec l'avenue Kalongi, soit près de 1100 mètres. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est la première fois que l'avenue Kalamba Nzevu accueille l'asphalte. Ces travaux effectués par l'entreprise Safemex s'inscrivent dans le cadre du projet Tchelegelou, supervisé par l'Office des voiries et drainage. D'après l'OVD, ces travaux de développement des infrastructures routières ont pour objectif de transformer cette artère en une route moderne pour améliorer la circulation et la qualité de vie des habitants. Tard dans la soirée, plusieurs personnes étaient sur la route pour contempler la transformation de l'avenue Kalamba Nzevu. Certains se sont exprimés en ces termes.
Cette avenue, on n'a jamais travaillé comme ça depuis notre enfance ici à Mbujimayi. C'est la toute première fois.
Donc moi, depuis que je suis née, c'est ma première fois de voir ça.
Et aujourd'hui, nous sommes sur Kalamba Nzevu. Nous marchons tellement calmement, sans problème. Nous pouvons sillonner tout Mbujimayi et nous rentrons propres, sans poussière.
De l'autre côté du boulevard, disait Laurent Désiré Kabila, une artère principale au cœur de la ville de Mbujimayi, plongée dans le noir depuis plusieurs années, les lampadaires solaires sont en train d'être posés par l'entreprise Safemex. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kabila.
Actualité internationale.
600 chrétiens s'apprêtent à célébrer Noël à Gaza. À cette occasion, le patriarche latin de Jérusalem a obtenu il y a quelques jours une rare autorisation pour se rendre dans l'enclave palestinienne. Le cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa a rendu visite aux fidèles catholiques palestiniens et célébré une messe dans la ville de Gaza. Alors que le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre dernier est régulièrement violé et qu'Israël attend toujours la dépouille de son dernier otage, le flou entoure la phase 2 du plan Trump pour Gaza. Celui-ci prévoit une force internationale de stabilisation et un conseil de la paix pour la gouvernance provisoire de l'enclave. Des voix s'élèvent pour dénoncer ce plan et s'inquiètent de la dérive que constitue la résolution de l'ONU qu'il a endossée.
L'invité.
Longtemps considéré comme l'épicentre des violences armées en Ituri, le territoire de Djougou connaît depuis quelques semaines une accalmie relative sur le plan sécuritaire. En complément des opérations militaires, des initiatives communautaires menées par les autorités coutumières visent à renforcer la cohésion sociale et les vivre ensemble. Pour le chef du secteur des Djachi, Justin Goudza, l'instauration d'une paix durable passe par une prise de conscience collective. Ils sont chrétiens avec Jean-Claude Lokidile.
Chef Justin Goudza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du secteur de Walendu Djati. Votre entité accueille des personnes déplacées en provenance de Ndokiebo et de Mambisa. Dans quelles conditions vivent tous ces déplacés et que faites-vous pour tant soit peu venir en aide à ces vulnérables?
Bon, c'est vrai que notre secteur, surtout pour la partie axe forêt, Likopi Iboudou venait d'accueillir toute une vraiment, masse de population à provenance du Kotré et Chefferi Mambisa et Ndokebo. Ce déplacement est dû aux affrontements que Fardese et Serpé, la rébellion Serpé, voilà, qui aurait eu lieu, ça fait déjà une semaine, et ça a alerté la population qui était à Brousse en train de se démener pour suivre vraiment leur déplacement jusqu'à atteindre notre secteur à travers la partie axe forêt. Et maintenant, cette condition de vie pose un grand souci parce qu'il faut avoir des logis, il faut avoir vraiment les survies, Tellement que la population est dépourvue de tous leurs moyens. Avec le nombre maintenant qui s'augmente, ça pose vraiment un sérieux problème, surtout dans la famille d'accueil. Bien qu'il y ait même des petits accompagnements, mais vraiment ça ne suffit pas.
Justin Goudza, votre Djougou est encore considéré comme l'épicentre des conflits armés, parfois à caractère identitaire. Mais la question que nous posons, que faites-vous pour éviter justement des discours de haine, par exemple? Déjà, nous apprenons que vous projetez un salon, mais à part ça aussi, vous avez tenu un meeting. Bref, comment vous faites un peu pour qu'il y ait la cohésion, pour que cette rébellion ne vienne pas casser l'élan de solidarité déjà qui se voyait, quoi?
Vous voyez déjà même l'exemple. Il y a eu un éboulement, un rebondissement dans la cité voisine et qui aurait occasionné le déplacement de la population. Et voyez comment cette population a été accueillie. Même si peut-être voilà, les moyens étaient suffisants, mais il y a eu vraiment un signe de l'amour du prochain. Voilà ce qui a facilité, favorisé que cette population vraiment se retrouve dans de bonnes conditions d'accueil.
Et les salons là, à quelle importance?
Les salons, c'est juste pour maintenant renforcer, entretenir le chemin qui est praticable et qui est de l'importance capitale pour cette partie-là des tronçons. Donc ça permet maintenant que cette population et de part et d'autre se fréquente. Parce que la fréquentation réciproque maintenant puisse être effective. Et ça a même déjà commencé à partir de ce déplacement et rassurance vraiment de vivre ensemble. Déjà, la population commence déjà à se fréquenter. Et c'est déjà un beau signe. Et nous devons maintenant renforcer davantage, les encourager d'abord, et que vraiment cet aspect-là soit vraiment continuel.
Que faudra-t-il finalement, après toutes les tentatives, démarches, ateliers, dialogues, organisés dans votre entité pour que Djougou retrouve la paix et la stabilité? Comme vous le savez, cette entité accuse un grand retard par rapport à son développement.
Je pense que nos messages vont vers toute personne leader. Nous devons tous vraiment avoir la même vision, surtout d'accompagner la réussite de la paix. Parce que cet accompagnement d'ensemble peut faire vraiment une importance capitale pour vraiment de l'intérêt communautaire et même pour notre pays, la RDC. Tout le monde doit vraiment l'accompagner. Et toute personne animée de mauvaise foi, les ennemis de la paix, vraiment, ils doivent revenir, cesser vraiment de vous impliquer dans toute activité qui peut perturber et mettre notre propre population, nos frères, nos sœurs, nos enfants, vraiment dans une perturbation sécuritaire. Ça ne peut nous faire aucun intérêt. Ça détruit. Il ne sert à rien même de multiplier les sortes de rébellions. Ça ne peut pas nous aider. Plus ça nous détruit, plus ça provoque des tueries, des blessés. Et des incendies, ouais. Plus on est en train de régresser au lait, voilà d'évoluer.
Justin Goudza, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Justin Goudza qui s'entretenait avec Jean-Claude Loki Dile. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal Vespéral de ce mercredi, coordonné et supervisé par Jude Mystère Bilandan Koumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio de la paix.